dans les questions contestées, où en Église, en assemblée, on doit arriver à une vue commune. Donc, ce n'est pas la femme qui, finalement, l'exprime avec autorité pour imposer. Et après, il parle du fait que Ève avait péché. Et comment elle avait péché? Elle n'avait pas parlé avant avec son mari. Donc, elle a exercé donc absolument indépendant sur une propre autorité dans une question fondamentale. Voilà, on peut finir ici et continuer avec les questions.
Ce qu'on veut. Oui, en fait, donc bien sûr, on peut aussi poser des questions par les...
Le sujet de la couverture de la femme et de l'absence de couverture chez l'homme, je n'ai exprès pas touché parce que il faut plus de temps pour pouvoir avancer un argument. Mais je réalise qu'il y a donc une conclusion qui manque dans ce que je viens d'exposer. Donc j'ai montré par les passages de l'Ancien et du Nouveau Testament comme les femmes ont beaucoup de possibilités pour être actives dans la Bible. Et que pour montrer avec ça que dans le passé, nous avons fait l'erreur d'accentuer 1 Corinthiens 14 de cette façon qu'on a rendu passifs les femmes dans la vie spirituelle. Dans ce sens-là, que ce n'est pas partout, mais un exemple assez... assez parlant. Quelques frères et sœurs sont ensemble dans une maison. On mange, on parle de n'importe quoi, des vacances, de la voiture, des enfants, etc. Et tout d'un coup, on arrive sur un sujet spirituel. Tout d'un coup, les femmes se mettent en arrière et se taisent. Ou bien, ils vont à la cuisine pour faire la vaisselle. Donc, cela montre, il y a là c'est une indication de maladie. Donc, qu'on aurait mis les femmes dans la passivité, et je suis convaincu que c'est aussi un péché. Mais d'autre part, quand je prends tous ces passages ensemble, je vois que les femmes peuvent faire presque tout. Mais il y a donc cette formulation 1 Corinthiens 14 qui dit « pas en assemblée ou en église ». Ce qui est en réalité que quelques heures par semaine. Et si nous pourrions plus encourager les femmes à être actives spirituellement, à connaître la parole, à transmettre ce qu'ils ont reçu du Seigneur et aussi créer les plateformes pour pouvoir exercer ce service, alors, il me semble, il serait beaucoup moins un désir ardent pour l'exercer dans les réunions d'église. Mais il faut que toutes ces possibilités pour instruire, pour évangéliser, etc., soient vraiment là et qu'on encourage et qu'on montre que dans une assemblée locale, il n'y devrait pas avoir des femmes qui n'ont pas de service. Et de service qui les remplit. Et normalement, un service qui fait aussi de la joie à une personne, c'est normalement aussi le service que le Seigneur confie à une personne. C'est en général ce qu'on aime faire pour le Seigneur, que c'est aussi quelque chose que le Seigneur veut nous confier. Donc on devrait retrouver un équilibre, et lorsqu'on le retrouve, il me semble que ça rabaisse beaucoup cette difficulté. En rapport avec 1 Corinthiens 11, peut-être encore une note pour montrer que lorsque nous lisons des textes difficile, appelé difficile, il y a toujours la difficulté que nous les lisons ces textes avec nos lunettes. Et il faut être conscient que nous sommes tous des enfants de notre époque. Et au siècle passé, et au deuxième siècle, au premier siècle, on était toujours des enfants de l'époque. Donc, nous avons toujours tendance de lire un texte avec nos lunettes. Un bon exemple pour 1 Corinthiens 11. Nous changeons de cadre, nous sommes parmi les juifs messianiques. Alors, les juifs messianiques veulent prouver à leurs confrères de leur peuple qu'ils sont des vrais juifs, qu'ils ne renient pas la foi des pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, ils ont un désir ardent pour prouver qu'ils sont encore des meilleurs juifs. Parce que si on reconnaît le Messie, on a trouvé donc l'accomplissement de l'espérance juive. Alors, il y a plusieurs qui aimeraient porter une kippa en réunion. C'est pas cette petite capelle. Et un commentaire d'un enseignant parmi les juifs messianiques qui est un leader aux États-Unis. Il explique ce passage où il est dit tout homme qui prie ou qui prophétise et en ayant quelque chose sur la tête, déshonore sa tête, donc le Seigneur, ça n'interdit pas qu'on porte une kippa en assemblée. Le texte veut dire qu'il ne faut pas utiliser le manteau de prière en assemblée. N'est-ce pas? C'est tour. Oui, châle. Un châle, oui. Qu'on met sur la tête et même parfois sur le visage pour prier. Et c'est seulement ça qui est défendu par ce passage. Dans la prière publique, mais bien sûr dans la prière privée, on peut aussi utiliser le châle. Donc, devant le mur de Lamentation, on peut prier avec le châle parce que c'est privé. Là, on ne prie pas en synagogue ensemble. Donc, simplement pour montrer, si on a un problème avec ce verset, on peut facilement dire, le verset veut dire le contraire de ce qu'il dit. Donc, simplement pour dire, il faut vraiment faire attention lorsque nous lisons un texte, que nous introduisons pas nos vœux, nos désirs dans le texte. Mais c'est une difficulté pour tous les croyants. Et il faut simplement être plus autocritique en lisant la parole. D'autres questions? Ou est-ce qu'il y a déjà des questions par écrit? Alors, j'ai dit que c'est justement une des approches qui disent, lorsque l'apôtre Paul dit ne pas parler ou se taire dans l'assemblée, que ce n'est pas un commandement absolu, mais il faut le voir sous l'angle de 1 Timothée 2, de ne pas enseigner. Mais prier, ça on peut. Donc, ça montre que celui qui demande cette question, ce n'est pas quelqu'un qui conteste la parole, qui dit que la parole n'est pas la parole de Dieu, il n'aurait pas autorité, mais il trouve qu'il faut le voir dans son contexte et dans le contexte avec d'autres passages. Mais j'argumenterai moi-même comme ça. Il y a justement le terme laléo, parler, qui dans le même chapitre 14 est utilisé pour la prière, pour la prophétie, pour l'enseignement, pour transmettre une révélation. Donc, pour chaque façon de s'exprimer, que si c'était comme ça, je m'attendrais plutôt que l'apôtre Paul aurait utilisé le terme enseigner, ou ce terme autenteo, donc dominer avec propre autorité. Donc, je vois là la difficulté. Pourquoi il utilise justement le terme tellement général. Il ne faut pas que je reste trop lent sur une question. Comment peut-on comprendre pratiquement le verset que si une révélation est faite à l'un, le premier se taise. Oui, tout simplement que si quelqu'un parle en assemblée et un autre a la certitude que maintenant il devrait ajouter quelque chose juste sur le moment, qu'il ait cette possibilité de faire une intervention, exposer ça et laisser l'autre de continuer après. Alors ça, nous avons aussi vécu en assemblée chez nous. Alors si on n'a pas tellement peur l'un de l'autre, et plus de spontanéité, il me semble que ce serait possible. Donc c'est des versets comme ça sont des perles qui nous montrent cette spontanéité qui existait à l'époque. N'est-ce pas aussi le fait, on sait toujours le passage, si elle veut s'instruire, qu'elle demande à la maison. Mais ça veut dire que les hommes devraient poser des questions, et beaucoup plus. Et n'est-ce pas, nous avons parlé des femmes, et maintenant, puisque l'invitation le disait, le service des hommes. Les hommes qui se taisent tout le temps, qui posent jamais des questions en assemblée, ils ont pris la position de la femme dans les églises. Et il me semble le problème là est en fait plus grand que le problème de perdre la position de la femme. Donc, et je crois aussi que si les hommes prennent plus de responsabilités et rendent les réunions plus intéressantes et vivantes et spontanées, alors les femmes peuvent beaucoup plus s'épanouir et avoir de la joie et moins avoir le sentiment mais c'est tellement pauvre, pourquoi nous pouvons pas introduire des aspects supérieurs? Et ils ont des aspects supérieurs. Voilà. Que pensez-vous de Actes 1, 14? Lisons 1, 14. Le Seigneur est monté au ciel. Les disciples retournent à Jérusalem. Je lis déjà le verset 13. Et quand ils furent entrés dans la ville, ils montèrent dans la chambre haute où demeuraient Pierre et Jean et Jacques, et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon, Zélote et Jude, frère de Jacques. Tous ceux-ci persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes et avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. N'est-ce pas?
Le micro est...
Oh. Ah, voilà. Alors ici, la question se pose, puisque hommes et femmes étaient ensemble en commun accord dans la prière. Est-ce que les femmes ont prié à haute voix ou pas? Donc, si on reste au texte, on doit dire on ne peut pas déduire. C'est simplement dit, ils étaient tous ensemble, ils priaient, mais comment la prière se faisait, c'est pas expliqué. Donc, on ne peut pas prouver par ce verset que les femmes n'auraient pas ouvert la bouche dans la prière, et on ne peut pas prouver que les femmes auraient fait le contraire. Donc il faut laisser des versets à ce qu'ils disent et pas vouloir prouver quelque chose qu'ils ne prouvent pas. Donc moi, j'argumenterai d'autres passages que... Je me demande fortement si les femmes auraient prié à haute voix, mais ils ont prié ensemble. Et déjà, lorsque on s'exprime à la fin, le Amen, d'ailleurs dans la synagogue, les femmes aussi, c'est ce qui n'était pas, le cas était parlé solo, n'est-ce pas? Mais dans le cœur, aucun problème. Alors, moi, je pense comme ça, mais c'est tout à fait possible, ou c'est pas absolument exclu, parce que c'est même pas encore dit que c'était une réunion d'assemblée. Donc, il faut être resté au texte. Une femme voulant s'instruire, n'ayant pas de mari, comment fait-elle? Bonne question. D'ailleurs, c'est ça qui a amené, dans la liste de différentes approches, vous pouvez encore complémenter, il y a aussi l'avis que cela, c'est seulement pour les femmes, la défense est seulement pour les femmes mariées. Donc, les femmes non mariées, allez-y. Mais c'est souvent dans la parole que un commandement est présenté en rapport avec une situation précise. Mais il faut lire par exemple les commandements dans la loi de Moïse et on va trouver beaucoup d'exemples. Et une loi en rapport avec une situation précise, mais cela ne veut pas dire que cette loi est limitée à cette situation, mais s'applique aussi à des situations parallèles. Alors, ce que j'expliquerai comme ça, l'apôtre Paul dit les femmes ne demandent pas dans l'assemblée, mais à la maison. Et à l'époque, surtout dans le judaïsme, c'était normal quand se marier. Donc, le célibat, comme on connaît dans le christianisme plus tard, c'est quelque chose qui était étrange en général dans le judaïsme. Donc, il parle donc de la situation générale. Mais aussi aujourd'hui, c'est la situation générale qu'une femme ou un homme se marie un moment, mais pas tous. Alors ça ne veut pas dire que eux, ils n'auraient pas de possibilité. Ça veut, donc il accentue pas dans l'église, mais à la maison. Mais si on n'a pas de mari, on a des frères, on a des oncles, on a des amis, on a toutes sortes. Et en plus, il y a quelque chose qui est important. L'apôtre Paul dit, si une femme a une question, qu'elle ne va pas d'abord chez les autres hommes, mais c'est tout d'abord le mari qui devrait essayer de donner des réponses. Et ça stimule les maris, parce que si les femmes demandent tout le temps, alors, ils commencent à acheter une petite bibliothèque, et peut-être ils augmentent les amitiés avec d'autres pour demander, j'ai une question. Il ne faut pas dire que c'est la question de la femme. Alors, il me semble qu'il y a quelque chose de très profond dedans, que le chemin normal, ce n'est pas qu'une femme mariée va tout le temps chez les autres hommes, mais d'abord chez son propre. Étant marié, voulant... étant marié, voulant s'instruire, interrogeant son mari, si celui-ci a compris moins bien qu'elle. Oui, alors, ça continue. Il devrait aussi faire des progrès. Et on devrait faire des progrès ensemble. Mais cela... ne veut pas dire que c'est défendu, mais de demander aussi à d'autres, mais le chemin normal est régulier, c'est d'abord le mari. Quoi sur les maris ambassadeurs de leur épouse, soit pour l'enseignement, soit pour les questions administratives. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est tout simple. À une réunion d'administration, le frère transmet au fond l'avis de sa femme.
C'est commissionnaire. C'est commissionnaire.
De la femme.
De la femme.
Ah. Oui, alors, les réunions d'administration, nous ne trouvons pas dans la parole. Donc, nous n'avons pas un enseignement qu'il faudrait avoir que des hommes. Donc, il y a des assemblées où les femmes assistent aussi. c'est pas une réunion d'église. Et si là, on a des mères en Israël, on a justement besoin. Et c'est peut-être même, il y a même des avantages. Donc, je ne veux pas changer des coutumes si on est convaincu d'une façon. Mais je veux simplement dire que peut-être il y a aussi un avantage si les femmes ne règnent pas simplement depuis derrière, mais qui s'expriment plus directement. Ça pourrait peut-être aussi augmenter la... comment on dit oui.
Franchise.
Franchise, et encore un autre terme. Hein? J'ai perdu le même amendement, mais ça commence avec T. Ah oui, tu m'as toujours dit, moi je suis transparent. Oui? Alors. La transparence dans la réunion. Quoi sur les maris ça. Oui. J'espère c'est tout, oui. Donner des sujets de prière avant une réunion de prière en assemblée, est-ce correct de la part d'une sœur? C'est intéressant, elle précise avant une réunion. Elle n'a pas dit dans la réunion. Donc, ce sont des aspects pratiques qui sont déjà autre chose si on voit un certain principe biblique. Et maintenant, la question, comment appliquer? Et voilà, justement, là, de nouveau, les sœurs qui n'ont pas de mari, comment apporter les sujets de prière? Alors, il me semble que c'est une question que, dans l'assemblée locale, on doit résoudre pour trouver un chemin qui fonctionne. Où s'arrête la notion de « en ecclesia » ? Une femme pourrait-elle enseigner un groupe de croyants ou prier dans un groupe de croyants rassemblés dans un autre contexte que dans les assemblées? Alors, là, ce qui est très souvent les cercles de maison, eh bien, c'est une atmosphère privée à la maison. Et là, je ne trouve pas un verset biblique qui dirait c'est impossible. Donc, et de trouver où est-ce que se trouve la limite, où s'arrête la notion, c'est bien exprimé. Alors, ça c'est quelque chose où on ne peut pas simplement dire, voilà, c'est la ligne, et ici ça arrête. Donc là, il faut justement le sentiment et la compréhension spirituelle qui devrait être réveillée et agir. N'est-ce pas, les juifs aussi avaient la difficulté. Quand est-ce que commence une synagogue ou quand est-ce que c'est pas une synagogue? Et finalement, ils ont dit, lorsqu'il y a 10 personnes. Puisque à Sodome, Abraham est descendu avec le nombre des justes, qui aurait un impact pour toute la ville, jusqu'à 10. Donc les 10, c'est le chiffre d'hommes qu'il faut pour avoir un impact sur une ville. C'est une synagogue. Alors c'est très facile, mais sous cet arrière-plan, c'était surprenant pour les disciples d'entendre là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Tiens, ils ont dit, pas 10! Avec 2, on peut déjà commencer. Voilà, alors. Mais là, il faut trouver donc une définition. Lorsqu'il s'agit d'une grande assemblée, la distinction est moins difficile. Lorsqu'on est 100 ou 150 ou plus. Mais lorsqu'on est un petit groupe, je connais une toute nouvelle assemblée qui s'est formée en Suisse romande. Suisse alémanique. Et un frère m'a dit, ils ont un problème. Parce que chez eux, les femmes prient en réunion. Mais seulement pendant la semaine. Et puis j'ai dit, comment c'est pour le culte? Non, là pas. Mais pendant la semaine, oui. Et seulement après quelques temps, j'ai compris que les femmes qui prient pendant la semaine, ils disent, on va au cercle de maison. Et les femmes qui ne priaient pas dans cette assemblée, disaient, nous allons maintenant à l'assemblée. Alors, c'était pas qu'ils avaient une différence de vue dans l'interprétation d'un passage biblique, mais de l'application. Et là, il faut trouver le chemin pour parler ensemble et pour trouver quand est-ce que nous comprenons vraiment comme une réunion d'église et quand pas. Si une femme ne peut pas prier dans l'église, assemblée, toutes les autres églises sont dans l'erreur. Deux points d'exclamation. Mais dans quelle église il n'y a pas d'erreur? Et voilà, c'est un point. Et il y a différentes raisons pourquoi dans une église c'est pratiqué comme ça et dans l'autre comme ça. Nous avons vu les différentes approches. Alors, et en plus, il faut dire, on peut dire, si, alors ce serait juste que les femmes prient dans l'église, alors toutes les églises des 2000 ans passés étaient dans l'erreur. N'est-ce pas? On peut argumenter des deux façons. Et les deux manières d'argumenter ne sont pas convaincantes. Parce que on peut pas dire, puisque on a toujours compris autrement, alors ça doit être juste. C'est la même chose avec la réforme. Alors là, les catholiques, on peut dire à Luther, mais qu'est-ce que tu veux, comme petit moine, de dire le contraire de tous les grands conciles, et même du pape. Mais est-ce qu'ils sont tous dans l'erreur? Et puis toi, tu crois que tu as trouvé la vérité par la justification par la foi? Oui, il avait raison et les autres n'avaient pas raison. Donc, on ne peut pas aller sur ce plan. Mais ce qui est important, c'est d'abandonner cette vue que tous les autres qui ont des autres vues sont des chrétiens de premier rang, de deuxième rang. C'est ça qu'il faut abandonner. C'est là où nous avons commis un péché collectif. Et il faut être plus autocritique et voir combien d'autres choses nous étions, nous, à l'erreur. Donc, nous avons apporté à d'autres chrétiens, et d'autres chrétiens ont apporté à nous. Comment définir une réunion d'assemblée? Là où deux ou trois se réunissent, ou à un temps précis, la sainte convocation? Comment savoir si c'est une réunion d'assemblée ou simplement une rencontre? Donc, comme je viens de dire, c'est surtout lorsqu'on est un petit nombre, il faut une définition ensemble d'auto-compréhension. Corinthiens 11, 5. Dans quel cadre appliquer ce verset? À la maison, dans un groupe de femmes, en assemblée. Très bien, je suis content que ça vienne. Oui, parce que là, c'est un point que j'ai laissé ouvert. 11.5. Et toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête découverte, déshonore sa tête, car c'est la même chose qu'une femme qui serait rasée. N'est-ce pas? Plusieurs ont argumenté. Ici, il s'agit des femmes qui prient et qui prophétisent. C'est en contradiction avec chapitre 14. Donc ça prouve que ce n'est pas une défense absolue. La différence, c'est au chapitre 14, nous avons deux fois le terme « en ecclesia », en église. Ce qui, pour la première partie de 1 Corinthiens 11, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, dans la suite des versets, à la fin du chapitre 10, il s'agit d'être convié, invité chez des païens à la maison. Et comment se comporter. Et tout de suite après, il parle de la position homme et femme. Et seulement au verset 17, il commence de parler de difficultés en assemblée.